10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis Olivier Delacroix et nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour avec ma camarade Omblin qui m'accompagne. Bonjour. depuis le mois d'août, hein, fin août déjà,
exactement.
Que le temps passe vite.
Bonjour.
Ravi d'être avec vous Omblin. Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles. Votre vécu, comme vous le savez, nous intéresse ici sur l'antenne d'Europe 1. La phobie est une peur irrationnelle face à des situations ou à des choses. En avoir une peut être très handicapant au quotidien. Certaines phobies sont dites simples, comme la peur des araignées ou encore la peur du noir. Il existe aussi les phobies complexes, les plus courantes, l'agoraphobie, la claustrophobie ou encore la phobie sociale. Mais d'où viennent ces angoisses irrationnelles qui nous habitent? Si certaines phobies peuvent être maîtrisées, d'autres empêchent considérablement, la personne qui en est atteinte de vivre. En psychanalyse, elles trouvent leurs origines dans l'enfance ou à cause d'un traumatisme. Peut-on en guérir? Il existe aujourd'hui de nouveaux moyens pour vaincre ces phobies, comme la réalité virtuelle. Vous savez, c'est à l'aide de casques où l'on projette des situations provoquant ces phobies. Eh bien, ces phobies, comment s'en défaire? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous composez le 39-21, le standard d'Europe 1, 39-21, 50 centimes la minute. Vous savez également, vous pouvez nous laisser des messages sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Mickaël. Bonjour Mickaël, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier, merci beaucoup.
Quel âge avez-vous Mickaël et d'où nous appelez-vous?
42 ans et je suis sur Marseille.
Sur Marseille, la belle ville de Marseille. Vous Mickaël, vous avez la phobie des espaces clos, c'est-à-dire que ce soit le métro, les ascenseurs ou l'avion. Est-ce que ça a toujours été le cas?
Non, pas du tout. En fait, je suis claustrophobe depuis 5-6 ans. Accentué.
Oui.
Avant, je l'étais légèrement. Mm-hmm. Et là, depuis 5-6 ans, ça s'est accentué.
Et alors, arrivé comment, en fait? Ça a commencé comment?
Progressivement. Je pense que c'est, en fait, suite à un divorce. Je me suis retrouvé seul avec mon fils. Donc, je pense que c'était les différences aussi de la vie qui ont fait que je m'inquiétais beaucoup, que je m'inquiète encore beaucoup.
Oui.
Et de manière que ça s'est accentué par rapport à, enfin, la vie générale de...
Je vous
le salaire, etc.
Et à quel degré en fait vous pouvez évaluer ces phobies? En fait, vous ne pouvez pas rentrer dans un ascenseur du tout ou vous ne pouvez plus prendre l'avion du tout?
Alors l'avion c'est terminé.
Oui.
J'espère qu'avec la réalité virtuelle ça va aller mieux. Le métro pratiquement plus du tout. L'ascenseur à part celui de chez moi, je ne prends pas l'ascenseur. Voiture trois portes, tout ce qui est un peu serré, enfermé. Je crains tout ça.
Comment votre entourage vous accompagne-t-il avec cette claustrophobie? Est-ce que on peut être aidé quand on est phobique comme ça?
Les gens comprennent pas ce qu'on a en fait. Ils pensent qu'on plaisante, ils pensent que ça va passer, ils pensent que c'est du cinéma.
Oui.
Mais en fait, quand vous nous voyez dans l'état où on fait la crise, c'est très très grave.
Mm-hmm.
C'est là où on comprend. Enfin, les gens comprennent que vraiment on ne plaisante pas en fait. C'est vraiment la vérité devant eux, parce qu'en fait on devient vraiment une autre personne.
Mm-hmm.
On est pris de manque de respiration, on est ailleurs en fait, vraiment. Mm-hmm. On est une autre personne.
Voilà. On est proche de ce qu'on appelle les crises de panique.
Ah, on est en totale crise de panique, c'est vraiment ça.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que vous ne contrôlez plus personne, personne ne peut rien faire, vous avez peur, une peur atroce de mourir, de rester enfermé.
Oui.
Et personne ne peut rien faire. Et le fait de dire, personne à côté de vous va vous dire on se calme ou calmez-vous, c'est encore pire.
Mm-hmm.
Voilà, ça s'accentue. Voilà, c'est une phrase à ne pas dire pour nous, en fait.
Mm-hmm. Alors,
j'ai envie de dire cette phrase.
Alors, aujourd'hui, bien évidemment, je suppose que vous évitez de vous retrouver en situation où une phobie peut se produire, mais est-ce que vous craignez encore des types de situations, malgré vous, où vous allez vous retrouver confronté à vos phobies?
Ah oui, bien sûr. Je rentre d'une pièce, quand j'ai des réunions dans mon travail, j'ai du mal à rester dans la pièce confinée.
Oui.
Il faut absolument que je sois près de la sortie ou près de la fenêtre. Dans un ascenseur, ne serait-ce que pour dans les centres commerciaux ou même quand je monte tout à pied. Dans une voiture, il faut que je sois vraiment ou au volant ou bien conducteur.
Oui.
Enfin, je vais à côté ou au volant, je veux dire.
Mm-hmm.
Voilà, il y a tout ça, en fait, mon cerveau a pris possession de moi complètement.
Mm-hmm.
Et en fait, il me bloque pour tout.
Mm-hmm.
C'est pour ça que je suis en train de subir une thérapie, en fait.
Alors justement, parlons de cette thérapie. Vous avez découvert un médecin qui pratique la réalité virtuelle pour soigner les phobies. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ça consiste, ces séances?
En fait, donc on a au départ 10 séances. Les 5 premières séances sont des séances de groupe. Donc, on est un groupe de entre 6 et 10 personnes. Nous, on était 7.
Oui.
Donc chacun expose un petit peu sa phobie. Et le docteur, donc le docteur Malbos, donne les différents moyens de parer aux phobies. Donc il y a différentes méthodes, différentes choses à faire si des fois vous arrivez une crise pour paraître au mieux. Voilà.
Et vous, ça marche sur vous ? Vous sentez que vous évoluez ?
Oui, c'est en train de marcher. J'arrive à prendre l'ascenseur un peu mieux, le métro un peu plus. Bon, c'est encore dur, mais ça va mieux. Là, je suis en avant-dernière séance seul.
Oui.
Les 5 premières sont en groupe, les 5 dernières sont seul. Et j'ai déjà fait 5 séances en thérapie, c'est-à-dire j'ai déjà fait plusieurs fois la réalité virtuelle. Donc dans un métro, dans un avion,
oui.
Dans un avion, un courrier, un petit courrier, dans un ascenseur, dans une pièce fermée. Voilà, tout ça, c'est les situations qui sont mises en face de moi. Et je dois, grâce aux méthodes qui m'ont été dictées et données, être le mieux, les appréhender au mieux, en fait. Voilà, exactement, je dois les appréhender.
Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, en fait, après ces séances où vous êtes carrément mis en situation, mais voilà, ces séances, on l'entend, vous font du bien.
Elles m'ont aidé, elles m'aident,
oui.
Mais c'est pas encore guéri, parce qu'en fait, ça va, au fur et à mesure que les situations vont arriver, je vais devoir appliquer les différentes méthodes qui m'ont été inculquées par le docteur. Le problème, c'est que voilà, la situation de l'avion, je peux pas la prendre tous les jours. Donc, oui, je le verrai voilà, sur un vol, par exemple, pour aller en Corse, qui est le vol le plus court pour de Marseille en Corse. Voilà. Par contre, je peux faire l'essai sur le métro, sur l'ascenseur, sur le voilà. Donc mon entourage a vu que ça allait mieux, ça va beaucoup mieux, mais c'est pas encore guéri. Mais il faut du temps, il paraît qu'il faut du temps.
Voilà. Il faut du temps et je vous souhaite bon courage, Michael, et mille merci pour votre appel et votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous serons avec Faustine. Elle est hémétophobe et cela handicap considérablement sa vie, pardon. Et alors, hémétophobe, oui. Je suppose que y a pas grand monde qui, moi, je ne savais pas ce que c'était. C'est la peur du vomi.
Ah, du vomi.
Du vomi, ouais.
Et il y a Claudie sur Facebook qui nous dit ma phobie, c'est l'eau. J'ai peur de l'eau dans une piscine, la mer, l'océan. Jamais je ne peux prendre un bain. Une vraie phobie qui me pourrit la vie.
Europe 1.
Comme Mickaël au 3921, vous avez peur des espaces clos. Comme Claudie sur Facebook, votre phobie, c'est l'eau. Vous témoignez au 3921, 50 centimes la minute. Cet après-midi, on parle de ces craintes irraisonnées, irrationnelles que sont les phobies. Une situation, un lieu ou un objet, qu'est-ce qui provoque chez vous cette grande anxiété ? Vous êtes atteint d'une phobie qui vous gâche la vie. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 3921 pour nous appeler.
Et nous avons eu Mickaël au 3921 qui nous expliquait que ces phobies concernant l'avion, le métro, en tout cas tout ce qui est un espace clos, l'handicapait énormément, mais que depuis qu'il pratiquait ses séances de réalité virtuelle, ça commençait à vraiment l'aider. Nous sommes maintenant avec Faustine. Bonjour Faustine, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Oui, je vous ai entendu respirer, Faustine. Ah, vous n'êtes plus là.
On a perdu Faustine.
Je pense qu'on a perdu Faustine.
J'espère que ce n'est pas la phobie du téléphone.
Non, ça va aller. Je pense qu'on va récupérer Faustine dans quelques instants. Peut-être vous avez d'autres...
De messages.
Oui.
Ah oui, on a pas mal sur la page Facebook d'Europe 1, sur le groupe de l'émission. Et c'est Eve qui nous dit être phobique des pieds. Alors ça fait rire beaucoup de gens, écrit-elle. J'en ris aussi d'ailleurs. Pourtant, en été... C'est un cauchemar pour elle. Oui. Je ne regarde jamais le sol quand je marche. Je ne peux pas avoir des pieds et des orteils bouger. Je ne peux pas non plus regarder ou toucher mes propres pieds sans un linge entre eux et ma main. Donc c'est vrai que ça doit être assez compliqué au quotidien. Avouez quand même que c'est le membre du corps le plus moche, nous dit Eve. Et alors on a cherché être phobique des pieds, c'est podophobe.
Podophobe.
Donc,
d'accord.
N'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook d'Europe 1 via le groupe de l'émission. Il y a pas mal de réactions sur les araignées aussi, bien sûr. Et puis Béa qui nous dit vivre quelques années sous les tropiques avec des très très grosses araignées, des méga araignées, ne m'a pas guéri. Les araignées, rien que de l'écrire, j'en ai la chair de poule, nous dit une autre Béatrice.
Vous avez des phobies, vous, Ombline ?
Comment ?
Vous avez des phobies ?
Alors moi, j'ai une phobie, mais qui est assez, auquel je ne suis pas confrontée. J'ai des peurs des océans. Mais
du vide.
De la profondeur de l'océan.
Oui, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça.
Voilà, avec les étranges poissons. Je n'aime pas ça. Je peux pas regarder un reportage, par exemple, sur le fond des océans.
Lorsqu'on observe, on voit que tout le monde souffre de phobie, finalement.
Oui.
Moi, je sais que j'ai eu longtemps celle des serpents. Et puis, plus dernièrement, en tout cas plus récemment, j'avais subi un vol très mouvementé. J'avais 12 ans. Je revenais de Corse avec mon frère et ma mère. Et l'avion, il y a eu du vent dans l'avion et tout ça. Et je n'ai pas pu prendre l'avion pendant 20 ans. Et il a fallu, en fait, il n'y avait pas la réalité virtuelle avant. Et donc, j'ai dû réapprendre, avec mon travail, à prendre des petits avions pour réapprendre, réassimiler le système, finalement, de se dire que, il y avait deux moteurs de chaque côté qui poussaient quelque chose qui ne pouvait pas tomber par terre tant que ces moteurs marchaient. Donc, du coup, il a fallu prendre sur soi. Mais je sais que c'est très difficile pour beaucoup de personnes de prendre l'avion.
Alors pour l'avion, il y a une technique, si je puis dire, très efficace, c'est l'hypnose. On en parle beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux, donc si ça vous concerne. Vous réagissez donc sur Twitter, hashtag Europe 1, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. On vous retrouve dans un instant, Olivier Delacroix, pour continuer de parler de ces phobies, de ces angoisses qui s'emparent de vous lorsque vous vous retrouvez dans une certaine situation ou dans un lieu précis, dans un ascenseur. En apesanteur, on retrouve Calogero. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 le 39-21 pour venir nous raconter quelle est votre phobie, est-elle handicapante dans votre quotidien, comment essayez-vous de la combattre? Vous nous écrivez, vous réagissez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et après quelques petits tracas techniques, nous voilà de retour parce que vous avez dû être étonné de nous entendre de vous raconter nos vies, mais on était un petit peu contraints. Nous sommes de retour, donc voilà. Après avoir entendu Mickaël et sa phobie des espaces clos, nous sommes maintenant avec Faustine. Bonjour Faustine, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Bonjour, j'ai 25 ans et j'appelle de Toulouse.
De Toulouse. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'hémétophobie?
C'est une peur panique, une phobie du vomi.
Une phobie du vomi. Elle vous est venue comment, cette phobie du vomi?
Aucune idée. Je l'ai depuis mon plus lointain souvenir, en fait. Je ne sais pas du tout d'où ça vient.
Et est-ce que vous avez quand en fait finalement vous avez réalisé que vous souffriez vraiment de cette phobie?
J'ai réalisé ça à la moitié de mon lycée. Enfin, je devais peut-être avoir 15 ans. Pour moi, c'était normal d'avoir peur du vomi c'était pour moi, tout le monde était comme moi. Et un jour. J'ai réalisé que personne ne réagissait comme moi face à ça.
Oui.
Et c'est là que je me suis renseignée un peu sur Internet et je me suis rendue compte que c'était une phobie et que j'étais pas du tout la seule.
Oui. Et donc justement, qu'est-ce qui vous différencie d'une personne qui a peur ou est dégoûtée du vomi? Qu'est-ce qui vous différencie et qu'est-ce qui fait de tout cela une phobie chez vous?
C'est je fais des crises d'angoisse, de l'hyperventilation, j'ai des tremblements, je peux tomber dans les pommes.
D'accord.
Et des crises de pleurs, et rien que d'en parler, ça me...
Oui. Voilà. Vous en avez parlé à votre famille?
Oui, alors au tout début, c'était assez...
Non, mais alors écoutez Faustine, reprenez votre souffle et puis concentrez-vous juste sur vous visualisez un beau micro bleu d'Europe 1 et puis vous êtes en train de parler à Ombline
on est avec vous. On est qu'entre nous.
Voilà. Reprenez votre souffle. Ça va mieux?
Oui, c'est bon. en fait, ma famille n'a pas tout de suite compris parce que c'est une phobie vraiment peu connue par le grand public, on va dire, et peu comprise. Et ce qui fait que ça a été assez dur, parce qu'il y a eu beaucoup de moqueries et des choses comme ça.
Quand vous étiez au lycée, c'est ça?
Oui, au lycée. Et puis après, donc ma famille, j'ai essayé de leur expliquer plusieurs fois au début, et c'était pas facile. Mais ils ont fini par comprendre.
Est-ce que cette hémétophobie, ce n'est pas facile à dire, hémétophobie entraîne aussi une sorte de phobie sociale pour vous?
Alors, pas au sens de j'ai peur de la foule. Par contre, je vais fuir les endroits à risque où il y a du monde. Par exemple, les festivals où il y a beaucoup d'alcool et ce genre de choses. Je vais fuir les parcs d'attractions, je vais fuir les fêtes foraines et ce genre d'endroits.
D'accord. Et est-ce que vous en êtes à anticiper des situations telles que celle-ci? Parce que
Oui, complètement.
Ça veut dire que dès que vous sortez dans la rue, vous y pensez?
Alors, quand c'est en pleine journée, par exemple, je vais pas y penser. Là où je vais y penser, c'est quand je dois sortir le soir pour X ou Y raison, même au bar. Par exemple, je vais demander à des amis d'aller regarder si tout va bien dans les toilettes avant de pouvoir y aller.
D'accord.
Je vais.
Vous vous empêchez de faire des choses à cause de votre phobie, au-delà des festivals, en tout cas des lieux à risque. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vous empêchez de faire par peur d'être confronté?
Oui. Oui. Bah, par exemple, aller au ski, c'est quelque chose, c'est super bête, mais pour moi, les routes de montagne.
Oui. Oui. Alors, visualisez encore une fois, hein, ne visualisez pas la route de montagne, mais visualisez encore une fois, Omblin et moi dans le studio en train de vous écouter. Parce que je comprends, on voit en plus combien cela envahit. On faisait référence à votre famille, en tout cas à votre entourage, pour comprendre ce type de choses. Et je pense que quand on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre. Vous avez essayé de soigner cette phobie, Faustine?
Oui, j'ai fait une thérapie cognitivo-comportementale. En fait, c'est ni plus ni moins que d'aller chez le psy, oui, afin de découvrir l'origine de la phobie. Mm-hmm. Donc c'est des questions sur, enfin, pour ma part, c'était des questions sur mon enfance, principalement mon enfance, vu que c'est arrivé très très tôt, et j'ai jamais trouvé l'origine.
Vous n'avez
donc,
pas.
En fait, j'ai arrêté.
Vous n'avez pas la moindre idée de l'origine de ça, du tout.
Non, vraiment pas. Je peux me souvenir de toutes les fois dans ma vie où j'ai été confrontée à ce problème.
Alors repensez à ce moment, hein, Faustine. Là, vous avez pris votre souffle, vous avez visualisé d'autres choses, quoi, du bleu, puisque ici à Europe 1 tout est bleu. Et je vous remercie d'avoir pris votre courage à deux mains pour parler de ça, parce que je sais que c'est très très compliqué d'en parler. Donc je vous souhaite plein de courage mille merci pour votre témoignage. Dans un instant, nous allons accueillir le docteur Éric Malbos. Il est psychiatre, chercheur et designer 3D au service de psychiatrie du professeur Lançon au CHU Conception de Marseille.
Europe 1. On parle de vos phobies, ces peurs irraisonnées qui peuvent vous gâcher la vie. Venez nous dire quelle phobie vous paralyse. Votre histoire au 39-21. Vous réagissez sur Twitter, hashtag Europe 1. Phobie sociale, claustrophobie, arachnophobie, vous êtes habité par cette peur irrationnelle qui vous empêche de vivre sereinement. Venez témoigner, nous raconter votre histoire. On vous attend au 39-21, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant en ligne avec le docteur Éric Malbos. Vous êtes psychiatre, chercheur et designer 3D au service de psychiatrie du professeur Lançon au CHU Conception de Marseille. Bonjour docteur et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci beaucoup, avec plaisir.
On a entendu Michael dans la première partie de cette émission, ensuite Faustine. On peut constater à travers ces deux premiers témoignages combien il est difficile et handicapant de souffrir de ces phobies. Ces phobies trouvent-elles leurs origines généralement dans l'enfance, ou quelle est l'origine de ces phobies?
Vous avez différentes causes possibles. Donc Michael et Faustine ont très bien expliqué leurs problèmes et je les félicite parce que c'était très clair. Donc les causes, vous en avez plusieurs et ça remonte pas forcément à l'enfance. Il peut s'agir d'un traumatisme direct, un accident de voiture,
oui,
le fait d'avoir vécu une panne d'ascenseur, des turbulences importantes dans un avion, la morsure d'un chien peuvent suffire, par le traumatisme qu'elle provoque, à créer une phobie. L'autre cause, c'est quand vous êtes témoin d'un incident traumatisant, donc quand vous êtes témoin d'un accident de voiture, vous voyez une personne qui est blessée.
Oui.
La troisième cause possible, c'est le stress. Donc là, c'est pas un événement précis, mais quand à votre travail, quand vous avez des soucis d'argent ou de santé, que ça provoque un stress chronique sur des mois, cela peut aussi déboucher sur une phobie. Et enfin, la quatrième cause possible sont les fausses informations, c'est-à-dire quand les parents vont donner de fausses informations à leurs enfants, comme par exemple, ne rentre pas trop tard ce soir, sinon tu vas te faire violer. Ne nage pas trop loin, sinon tu vas te noyer.
Oui.
Ces phrases font croire à l'enfant que l'environnement est hostile et peuvent déboucher, une fois adulte, sur la phobie.
Docteur, pouvez-vous nous expliquer la différence entre une phobie simple et ce qu'on appelle une phobie complexe?
Alors ça, c'est pas une définition qu'on trouve dans les livres, mais souvent la phobie complexe, c'est en fait l'agoraphobie.
Oui.
C'est-à-dire une phobie qui est plus complexe parce qu'elle concerne de nombreux lieux et de nombreuses situations différentes, aussi bien le désert que la montagne, que les télésièges, que le métro, que l'avion, etc. Alors que les phobies simples, c'est vraiment une situation très spécifique et très limitée.
Et les deux se soignent-elles de la même façon?
Oui, la thérapie reste la même.
Vous avez mis en place un moyen de traiter les phobies par la réalité virtuelle. Comment vous avez trouvé déjà ça? Racontez-moi comment vous avez mis ça sur pied.
Eh bien, comme j'apprécie beaucoup les jeux vidéo, les dessins animés japonais et la science-fiction, j'ai vraiment essayé de marier ça avec la médecine.
Oui.
Et j'ai remarqué qu'il existait aux États-Unis une technique qui consistait à faire donc une thérapie d'exposition, mais au lieu de le faire dans la réalité ou par imagination, le faire avec des images 3D dans un casque de réalité virtuelle. Donc j'ai ainsi commencé à chercher et à travailler dans ce domaine dès 2003, donc depuis 15 ans.
Et donc concrètement, la réalité virtuelle, voilà, c'est quoi ? C'est un casque que l'on met avec des situations qui sont projetées ?
Alors concrètement, c'est ça. Vos auditeurs l'ont peut-être déjà vu dans les magasins ou avec leur PlayStation ou leur console.
Exactement, par exemple. Oui.
Et effectivement, c'est un casque de réalité virtuelle classique, on voit pour toutes ces consoles ou les PC, que vous mettez sur la tête, connecté à un ordinateur qui va lancer des environnements virtuels qui représentent ce que redoutent les patients.
Oui.
Une personne qui a peur des chiens, on va lui montrer un chien en 3D. Une personne qui a peur de vomir, comme Faustine, eh bien on va l'exposer à du vomi sur des murs 3D virtuels.
Mm-hmm.
Une personne qui a peur de prendre l'avion, ça va être un avion virtuel et on va pouvoir créer des turbulences.
Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a une progression dans, vous voyez, vous dites à Faustine par exemple, on va lui montrer du vomi sur les murs. Est-ce qu'il y a une progression dans ce que vous allez dans la mise à l'épreuve du patient?
Alors exactement, d'abord on ne l'expose jamais d'emblée.
Oui.
On lui apprend d'abord des techniques de relaxation, de gestion des émotions, des stratégies d'action pour qu'il soit prêt. Une fois qu'il est prêt, on l'expose mais en douceur. C'est précisément l'avantage de la réalité virtuelle, c'est que tout se fait doucement. On commence par un avion vide, sans passagers, qui reste au sol. On commence par du vomi qui est loin, qui est à 40 mètres. Très éloigné. On commence par une toute petite araignée dans un bocal. On commence par un chien très calme. Donc c'est ça l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut recréer toute situation et surtout exposer le patient très doucement et très progressivement.
Cette réalité virtuelle, docteur, soigne-t-elle toutes les phobies ?
Comme vous pouvez créer en fait n'importe quel environnement virtuel avec l'ordinateur, vous pouvez donc traiter toutes les phobies et par exemple... il y a quelques semaines, j'ai traité une phobie des requins.
D'accord. On va continuer à en parler, c'est très intéressant, parce que vous me direz, docteur, ensuite, si finalement la réalité virtuelle est aujourd'hui le premier moyen, hein, le moyen le plus efficace de soigner ces phobies. Parce que comme ça, comme vous l'expliquez, ça, en tout cas moi, ça me paraît être un des moyens les plus sûrs. Vous restez en ligne avec nous, docteur Eric Malbos. Nous serons dans quelques instants avec Geneviève. Sa fille est atteinte de phobie scolaire depuis de nombreuses années.
Et Christelle nous écrit sur Twitter, hashtag Europe 1, je suis atteinte de nosophobie. J'ai la peur immense de tomber malade, de mourir, mais elle concerne uniquement la peur immense d'avoir un cancer. Cette phobie entraîne en moi des crises de panique avec impossibilité d'empêcher ces crises.
Europe 1.
Les ascenseurs, les serpents, l'avion, d'où viennent vos phobies? Comment vous en débarrasser? Vous nous racontez au 3921. Sur Europe 1, nous parlons des phobies souvent incontrôlables. Elles régissent une partie de votre vie, de votre quotidien. Comment vaincre nos phobies? Vous échangez avec Olivier Delacroix au 3921.
Et nous sommes toujours avec le docteur Malbos, psychiatre, chercheur et designer 3D au service de psychiatrie du professeur Lançon au CHU Conception de Marseille. Et nous accueillons maintenant Geneviève. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Geneviève.
Oui, bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
J'ai 51 ans et j'appelle de Nîmes dans le Gard.
D'accord, de Nîmes. En classe de 5e, votre fille a été harcelée à l'école. Comment était-elle à la maison? Est-ce qu'elle elle vous en parlait? Est-ce qu'elle vous le montrait?
Pas du tout, elle ne nous en a pas parlé jusqu'au moment où effectivement je l'ai retrouvée prostrée dans son lit, sans possibilité de se lever, et sans possibilité de faire autre chose que de rester couchée en fait, sans réagir.
Elle a commencé à développer des troubles anxieux, scolaires, impossible pour elle de pousser la porte donc, de l'école.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là?
Bah écoutez, on a essayé de trouver un professionnel habilité à prendre en charge ces troubles anxieux, ce qui a été quand même assez compliqué, parce que trouver un professionnel qui puisse mettre un nom sur cette problématique nous a pris quelques semaines, quelques mois en fait.
Et justement, qui a réussi à mettre un mot sur cette maladie?
Bah écoutez, ça a été le professeur Ruffaut sur
oui.
Marseille.
Ça vous a rassuré de vous et votre fille de savoir que c'était une phobie? Qu'est-ce que ça amène finalement de savoir que de quoi on souffre?
Bah, comme toute maladie, de savoir, de pouvoir mettre un nom sur le symptôme permet après de savoir exactement ce qu'il faut à peu près faire par rapport à ce symptôme-là, comme toute maladie, et puis pouvoir se poser et dire oui, finalement, c'est quand même c'est quand même une phobie scolaire, mais c'est pas plus grave que ça.
Du moment où on sait ce qu'on a, on peut le combattre, bien évidemment.
On peut combattre les choses. Et c'est vrai que à ce sens-là, l'association aussi Phobie scolaire m'a beaucoup aidée dans ce parcours.
Il y a beaucoup d'associations, je le rappelle à nos auditeurs, qui peuvent aider lorsqu'on souffre de toute phobie, tout au long de cette phobie. Comment votre fille faisait-elle pour s'instruire?
Nous avons fait l'instruction à domicile via le CNED et via le SAPAD, qui est un système d'aide des professeurs du collège, puisqu'elle était en cinquième, qui venaient à la maison pour certaines matières, pour l'aider à faire en tête-à-tête certains cours. Donc en l'occurrence, nous avions eu du français, des mathématiques et de l'histoire-géo. Voilà.
Cette phobie, elle dure depuis combien de temps maintenant ?
Écoutez, ça va faire 3 ans.
Et donc, qu'est-ce que vous avez cherché à ce que votre enfant retourne à l'école, ou à ce que vous n'avez pas voulu brusquer les choses et ça lui appartiendra à un moment où elle le sentira?
Dans un premier temps, nous avons fait du forcing sur les conseils de certains professionnels, si je puis dire, sur certains psychiatres qui apparemment n'étaient pas très au point au niveau de la phobie scolaire. Donc nous avons fait du forcing et ça a été
Contre-productif, je suppose.
Contre-productif, et on s'est vite aperçu qu'en fait, en force de forcer, on arrivait totalement au contraire de ce que l'on voulait faire. Donc on a arrêté tout, on a arrêté de la forcer. Et on a mis en place les cours à domicile. Après, elle est allée sur Zebra Marseille aussi. Oui. C'est une association qui lui a permis de reprendre un petit peu confiance en elle.
Et de voir d'autres enfants de son âge, je suppose.
Qui étaient dans les mêmes problématiques qu'elle, puisque, en l'occurrence, entre-temps, nous avions fait des tests de précocité. Il s'avère qu'Edeline est précoce, donc ce qui explique aussi le fait qu'en plus elle avait quelques difficultés scolaires aussi.
Alors vous allez pouvoir profiter des éclairages du docteur Malbos. Docteur, comment traiter au mieux une phobie scolaire?
Alors déjà, il y a un contexte pour la fille de Geneviève, c'est qu'effectivement elle est à haut potentiel, c'est-à-dire qu'elle a un QI très élevé.
Oui.
C'est donc une fille très intelligente, et les enfants qui sont très intelligents et qui comprennent très vite sont aussi des enfants qui sont très sensibles. Ce qui fait que lorsqu'on est un peu moqué, insulté, un peu agressé, les enfants très sensibles vont développer facilement de l'anxiété qui peut déboucher sur une phobie scolaire, comme apparemment c'est le cas ici. En pratique, c'est tout à fait. On peut absolument les traiter avec les méthodes classiques, tout comme en réalité virtuelle, où là, ça consiste à placer l'enfant ou l'adolescent dans une classe virtuelle, donc une classe entièrement en 3D ou alors filmée à 360, où il va s'entraîner à appliquer les méthodes dans des situations qu'on retrouve à l'école, c'est-à-dire en classe. Il va passer donc dans une salle virtuelle devant un tableau virtuel à parler devant tous les élèves virtuels. Oui. Certains élèves vont l'embêter, d'autres l'insulter. Et il faut que l'enfant ou l'adolescent utilise les méthodes qu'on lui a enseignées dans ces situations de manière répétée et progressive pour qu'il puisse ainsi retrouver son autonomie et surtout gérer sa relation avec les autres.
Docteur Malbos, vous restez en ligne avec nous puisque dans quelques instants, nous accueillerons Christine qui a fait usage de cette réalité virtuelle pour soigner sa phobie des avions et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mille merci Geneviève pour votre témoignage au 3921 et puis bon courage à la petite qui paraît grande puisque c'est une ado et puis à vous Geneviève, mille merci.
Et via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Mamie Brigitte nous dit: pour moi, souris et rat, j'ai transmis cette peur à ma fille qui m'a vue en panique totale devant une souris. Je ne vais plus au cinéma à cause de ma phobie des rats, la peur d'en voir en gros plan. Vous dire aussi que Philippe sur Twitter, hashtag Europe 1, j'ai eu une phobie sociale, la vie à l'extérieur devient un enfer, la thérapie m'a guéri.
Europe 1.
Venez nous expliquer quelle est votre phobie sur Europe 1, comment essayez-vous de la combattre et vous réagissez sur Twitter par exemple, hashtag Europe 1. Vous allez retrouver Olivier Delacroix et nous continuons de parler de vos phobies. On continue de vous écouter au 39-21 et voici les réconfortants Diana Krall et Tony Bennett avec Fascinating Rhythm sur Europe 1.
Il
L'hommage de Diana Krall et Tony Bennett à Gershwin sur le nouvel album Love is Here to Stay, l'extrait Fascinating Rhythm sur Europe 1. Vous retrouvez Olivier Delacroix et nous parlons de vos phobies, comment les combattre.
Et nous accueillons maintenant Christine sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Christine, soyez la bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'où Christine ?
Marseille.
Et vous avez quel âge ?
42 ans.
42 ans. Il y a une dizaine d'années, vous avez commencé à avoir très peur de prendre l'avion. Ça se traduisait comment ?
Ça se traduisait par une angoisse qui démarrait plusieurs mois avant le vol,
oui.
Avec même la nuit, ou voilà, on y pensait longtemps à l'avance, et puis lorsque on arrivait, enfin moi j'arrivais à l'aéroport, voilà, des oppressions, avec une sensation de très désagréable, de se dire on va pas maîtriser la chose, voilà, c'était vraiment
des peurs irraisonnées en fait.
Tout à fait. On se dit, ben, en gros, on se voyait mourir, quoi,
ouais, ouais.
Avant de pouvoir accéder à l'avion. Quoi.
Pourquoi ça a commencé si tard, à votre avis ?
Je pense que déjà, ce qu'on voit à la télé, on a toujours l'impression que ben, dès qu'il y a quelqu'un qui prend l'avion, ça se passe mal.
Ouais.
Parce que, c'est assez anxiogène, et puis c'est quelque chose en tout cas moi que je faisais assez rarement,
oui.
Puis on a toujours des gens autour de nous qui nous racontent qu'ils ont eu des moments désagréables en avion, et puis bon, je suis pas quelqu'un qui aime forcément faire des manèges en sensation ou des choses comme ça, donc j'étais déjà j'avais pris l'avion plusieurs fois sans avoir d'angoisse, mais voilà, ça s'est déclenché à un moment donné, j'étais beaucoup moins encline à pouvoir aller en voyage.
Un jour, vous avez voulu enfin profiter de l'avion, hein, de vos voyages. Et comme Mickaël, vous avez décidé de faire appel à la réalité virtuelle avec le docteur Malbos. Comment se sont passées les premières séances dans cet avion virtuel ?
Les premières séances, on s'y croit vraiment. On se voit vraiment en train d'être à l'aéroport. Moi, le plus difficile au départ, c'était vraiment le passage du tunnel. Quand on va pour accéder à l'avion, on commence à entendre les bruits, le moteur qui tourne. De suite, vraiment, dès les premiers instants, j'avais vraiment l'impression d'y être.
C'est très réaliste, hein, ce que vous nous racontez. Parce que finalement, il y a tout le pré-embarquement, si je comprends bien.
C'est ça. C'est qu'on va pour, on va pour rentrer dans l'avion. Après, donc effectivement, on a un travail qui est fait au fur et à mesure avec le docteur pour évaluer les moments qui sont le plus anxiogènes pour nous.
Mm-hmm.
Donc moi, c'était ce passage-là, et puis après le décollage. Donc les séances permettent vraiment de cibler le moment qui est le plus difficile pour nous et de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a appris au niveau de la thérapie et de pouvoir dire à un moment donné si c'est trop fort. Je prends mon temps, d'avancer à notre rythme. Quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant.
Et justement, ça, j'entends que ça vous a aidé, hein, que ce soit progressivement des situations de plus en plus poussées qui vous ont été présentées. Est-ce que à un moment vous avez repris l'avion ?
Oui, cet été, j'ai repris l'avion.
Et alors ?
J'ai pas du tout eu les angoisses au préalable que j'avais plusieurs mois à l'avance, à ma grande surprise. C'était vraiment, j'anticipais mes préparatifs, mais comme toute personne qui prépare ses vacances sans forcément dire mon Dieu, il va falloir que je prenne l'avion, il va falloir que je prenne l'avion.
Mm-hmm.
J'ai pas du tout ce ressenti là. Après, voilà, au moment où effectivement il y avait les passages qui pour moi étaient initialement difficiles, le fait d'avoir les moyens où on se dit, j'ai appris, j'ai des moyens, j'ai des outils, je sais quoi faire maintenant, je subis pas cette réaction que je peux avoir. D'interprétation complètement anormale de la réalité.
Mmh.
Ça permet d'appréhender les choses de manière différente et ça passe beaucoup mieux et on sait ce qu'il faut faire quand ça arrive. Quoi.
Mmh. Docteur Malbos, on voit que pour Christine comme pour Mickaël, leur phobie est arrivée très tard dans leur vie. Comment expliquer que pour Christine, ça aille vraiment mieux aujourd'hui ? Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'elle présente certaines caractéristiques qui fait que la réalité virtuelle, ça a marché pour elle ?
Il n'y a pas de caractéristiques particulières, en fait, puisque c'est une thérapie qui marche chez la majorité des personnes. Surtout, il faut simplement être très motivé et prêt à changer.
Oui.
Et c'est vrai aussi à faire quelques efforts, comme c'était le cas de Mickaël et de Christine, qui effectivement étaient très motivées à la base et se sont donné la peine et ont fait l'effort effectivement de s'exposer, ce qui n'est pas toujours facile, mais heureusement on le fait en douceur, et les résultats sont là pour en témoigner.
Ça marche.
Alors, ça marche, mais soyons scientifiques, ça ne marche pas à 100%. On a un taux d'efficacité d'à peu près 80%.
Merci beaucoup, docteur Éric Malbos, d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Michael, à Faustine, à Geneviève et à Christine de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous avons appris qu'une phobie est un trouble de l'anxiété généralisée qui a pris une place considérable dans le quotidien. La phobie est caractérisée par une peur irrationnelle, mais son origine tient souvent dans un traumatisme qui peut ne pas du tout y être lié. Les symptômes peuvent arriver tard, comme on l'a vu progressivement. Il faut donc faire attention. Et si vous sentez qu'une peur irrationnelle commence à prendre trop de place dans votre vie, il existe aujourd'hui différents moyens de traiter cette phobie. Une thérapie, l'hypnose, la méditation ou encore cette réalité virtuelle dont le docteur Éric Malbos nous a parlé et qui semble obtenir des résultats de plus en plus concluants. Vous pouvez continuer à en discuter sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Le groupe de l'émission, c'est votre groupe. Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des accidents de la vie courante avec Attitude Prévention. Comment éviter les accidents de la vie quotidienne qui sont presque 12 millions à se produire chaque année. Si vous avez été victime d'un accident de la vie courante, si votre enfant ou un de vos proches l'a été, appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de de votre histoire.
Mm-hmm. À demain, Olivier.
Eh ben, à demain, oui.
À partir de 15h, sans aucun problème technique, on espère.
Et je vous laisse maintenant avec l'excellente Laurence Boccolini sur Europe 1. Et on va rire aujourd'hui, Laurence, comme d'hab.
Oui, Olivier, aujourd'hui, on va vraiment rire parce que notre invitée, c'est Amanda Lear qui vient pour son bouquin Délire, justement.
Excellente Amanda Lear, grande dame que cette Amanda Lear. Bonne émission, les filles, et à demain, 15h. Salut, Ombline, à demain.
À demain, salut, c'était Olivier Delacroix sur Europe 1.